Le Space Cast avec JF Blais et Louis Gauvin. Radio X.
Le Spacecast vous accompagne jusqu'à 22h, jusqu'à l'arrivée de Max Lacasse, qui, lui, à compter de 22, va prendre vos appels pour le Last Call. 418-670-9098, c'est le numéro pour nous rejoindre. Si vous avez des questions, des commentaires, vous voulez nous faire part d'enjeux de circulation, tout ça, c'est plus que pertinent. Hey, en fin de semaine, gros combat, on en a parlé jeudi avant de se laisser pour la fin de semaine. Gros combat aussi qui était... Moi, j'aime quand on bâtit une carte avec une espèce de décor puis une thématique globale de l'événement. Là. Tout ça se passait en Égypte, devant les pyramides de Gizeh, pas très loin du Sphinx aussi. Puis dans l'iconographie télévisuelle, tous les boxeurs étaient comme attriqués en genre de combattants égyptiens avec des armures dorées. Fait que tu sais, il y avait une thématique clairement sentie. T'as-tu écouté un peu?
Oui, j'ai écouté le main event, là. Puis j'en suis resté amer un peu.
Ah ouais?
Ouais.
OK, ben crime, on va en jaser avec notre prochain invité qui, lui, n'a pas regardé ça sur une TV. Il était là.
Il était là parce qu'il accompagnait Christian Mbili qui, lui, était parti faire son face-off devant les pyramides avec Canelo.
C'est malade, ça.
C'est fou. Hein?
C'est malade. Il est le directeur général de Eye of the Tiger Management. Il s'appelle Antonin Descarry. On va aller le rejoindre. Monsieur Descarry, bonsoir.
Comment ça va, les boys?
Ça va très bien, vous?
Très bien, merci.
Excellent. Hey, je commence. Vous avez été boxeur. C'est comment pour vous de continuer d'évoluer dans ce milieu-là? Hein, t'sais? Parce que j'imagine que quand une carrière se termine, il doit y avoir une espèce de... En fait, on le voit avec des joueurs de hockey, là, une espèce de vide qui s'installe, mais de pouvoir continuer à être dans cet environnement-là.
Oui, mais disons que c'est particulier un peu, moi, comment la transition s'est faite. J'ai jamais vraiment pris ma retraite. Je boxais, puis j'étais déjà très impliqué au niveau au volet administratif. Là. Donc, j'avais une très bonne relation avec mon promoteur de l'époque qui est mon partenaire d'affaires maintenant, Camille et Stéphane. Donc, j'ai commencé à m'impliquer. J'étais déjà dans le... Je boxais encore. À un moment donné, Camille a acheté Interbox. Je suis devenu président d'Interbox. On a jumelé les compagnies. Fait que ensuite, je suis devenu le directeur général de Dive the Tiger. Mais disons que c'était... J'ai jamais pris ma retraite, dans le fond. Donc, j'ai pas eu cette espèce de petits dents là, si on veut, disons, pratiquement, j'avais pas boxé, fait que j'ai fait, ok, ouais, c'est fini, mais j'ai pas eu cette réalisation-là tant, ben, un peu quand même, parce que ça, on en a parlé avec mon coach, mon équipe, tu sais, qu'est-ce qui se passait, mais je pense que eux aussi trouvaient que même si j'étais sur une belle période, là, ça allait bien, j'étais sur une série de victoires, mais tu sais, j'étais pas vieux, j'avais 32 ans, mais disons que, on voyait que j'avais plus d'avenir de l'autre côté, fait que c'était une décision qui s'est faite facilement, disons.
Y a-t-il une grosse différence? Puis moi, je suis zéro connaisseur de la gestion dans le monde de la boxe. Là. Est-ce qu'il y a une grosse différence entre... Parce que je connais de nom Interbox, puis je connais aussi Eye of the Tiger. Eye of the Tiger, eux autres, c'est eux autres qui ont le pavé en ce moment. Là. Ils sont gros. Quand j'étais plus jeune, j'ai le souvenir des Éric Lucas de ce monde-là qui était sous Interbox. Quelles sont les différences entre les deux, principalement?
Ben, en fait, Interbox, c'est la première grosse équipe de promotion qui a vu le jour ici au Québec. Ben, il y a eu plusieurs grands promoteurs au fil du temps, mais il était seul. Là, je pense à Régis Lévesque, disons. Mais à cette époque-là, en 97, ça a été créé. Yvon Michel était très impliqué. Comme c'était lui le directeur général, si je ne me trompe pas. Ça a été une écurie qui a eu beaucoup de succès. Ensuite, Yvon s'est chicané avec les promoteurs, le propriétaire, il a parti le groupe Yvon Michel, donc c'était une équipe de promotion différente. Quelques années plus tard, Eye of the Tiger Management ont vu le jour. Puis c'était trois équipes en compétition, si on veut. Eye of the Tiger ont acheté Interbox et on les a jumelés. Puis donc Interbox n'existe plus, c'est vraiment là. Interbox et Eye of the Tiger, c'est la même chose, si on veut.
Okay.
Et puis groupe Yvon Michel, ben font leurs affaires, mais on les voit de moins en moins.
Oui, en effet, effectivement, vous avez tous les combats. En tout cas, dans mon souvenir, tous les combats qui, moi, m'ont excité, vous étiez jamais bien loin derrière. Là, question comme ça, quand on commence une agence ou quand on veut bâtir, parce que là, vous êtes vraiment dans... T'sais, Christian Billy va se pogner contre Canelo. Là, je veux dire,
il n'y a pas plus haut que ça.
Non, honnêtement, t'as parfaitement raison. On travaille très fort. Ben, je te coupe. Je vais te laisser. Attends, t'allais me poser une question.
Oui, mais j'allais te demander comment est-ce qu'on se crédibilise dans cet univers-là de la boxe à l'international? Comment est-ce qu'on fait pour être reconnu puis que quand on appelle quelque part, le téléphone, ils répondent?
Ben, je pense que le temps fait bien les choses. Le sérieux, le professionnalisme. Je pense que les premières années, c'était pas évident. Là. On a fait des shows dans des sous-sols d'hôtels, puis tu sais, tranquillement on a pris de l'envergure. Au début, on signait qui on pouvait, si on veut. Là. C'était pas évident nécessairement les grands boxeurs, là, les champions olympiques, puis les grands boxeurs amateurs n'avaient pas nécessairement envie de faire le saut de nous faire confiance. Même chose, mais c'est au fil du temps, à force de bâtir, de se créer une belle réputation, d'aller chercher, de faire du bon recrutement. À l'interne, Camille Stéphane, Marc Ramsey, puis moi, je pense qu'on a une bonne chimie, on travaille bien le côté boxe. Le reste de l'équipe est vraiment solide. Donc, notre l'organisation est vraiment est sérieuse, puis il encadre bien. Donc, c'est la réputation, le mot s'est passé, puis maintenant... On est rendu avec, ça fait plusieurs années qu'on dit que les plus belles années sont à venir, puis qu'on a on a beaucoup de talent, mais ça prend un certain temps de développer ce talent-là, puis là c'est tout en train d'éclore. On a plein de gars qui se battent en championnat du monde, on a plusieurs champions, fait qu'on est on fait partie de pas mal de l'élite sur la planète. Oui. On joue avec les plus grands.
Camille et Stéphane, est-ce qu'il a un background de boxeur comme toi ou?
Non. C'est lui, il est rentré dans le monde de la boxe. Il y avait un de ses amis qui était à l'époque Berman Stiverne, qui avait signé avec Don King. Camille avait toujours beaucoup aimé le monde de la boxe, puis il connaissait ça, mais il avait jamais boxé ça, de manière professionnelle ou de manière sérieuse.
Okay. OK. Hey, comment est-ce qu'on monte une écurie de boxeurs? Tu l'as comme glissé un peu, puis je trouve ça intéressant. Vous les dépistez à partir de quand, les kids? Hein?
Certains, tu sais, on peut parler de Wilkins Mathieu, parce que lui, c'est lui qui fait la finale le 11 juin au Capitole de Québec.
Oui.
Lui, c'est un gars qu'on a vu très jeune parce que son frère était avec nous à l'époque. Je sais pas si vous vous rappelez de Lexun Mathieu, c'était son grand frère.
Oui.
Il a boxé pendant quelques années avec nous. Puis, on avait un certain lien privilégié, si on veut. Donc, on l'a vu très jeune, là, vers 16 ans, à peu près 15-16 ans. On savait déjà qu'il allait avoir une belle carrière. Fait qu'on on est resté proche. Puis, à 18 ans, il a fait le saut avec nous directement. C'est un peu plus facile au Québec, si on veut, d'aller approcher. Contrairement au hockey, la boxe, pour vrai, c'est beaucoup plus facile. Il n'y a pas de, okay. Y a pas de ronde. T'sais, au hockey, chaque équipe a chacun leur tour de parler. Ils peuvent aller choisir. Puis, tu peux pas juste prendre n'importe qui. En boxe, tu peux vraiment prendre n'importe qui. Tu vas aux Jeux olympiques, tu vois qu'il y a 4 athlètes qui t'intéressent, tu leur fais une offre. Puis, si on a de l'intérêt, ils signent avec toi. Si on veut, ça prend évidemment des poches assez profondes, hein, pour être capable de régler tout. C'est pas si simple que ça. Ça prend des poches profondes, ça prend une bonne connaissance, parce que c'est pas juste parce qu'un athlète a eu une belle carrière amateur qui va nécessairement avoir un beau background, une belle carrière professionnelle. Il y a quand même il y a deux styles différents. Donc il faut être capable de cibler les bons gars. Puis après ça, c'est les manœuvrer. Là. C'est quand même il y a beaucoup de politique qui se joue. Fait que c'est pas toujours nécessairement le meilleur boxeur qui se rend au top. Là. Donc, des fois, on a souvent vu ça, des boxeurs un peu moins bons, mais quand même bons. Là, mais il y a des fois des gars un petit peu moins talentueux qui réussissent à se rendre jusqu'au bout parce qu'ils ont eu un chemin un peu plus facile.
Okay,
notre job, nous, c'est de manœuvrer là-dedans et de s'assurer qu'on est capable de les amener au bout. Là.
Tu parles de parcours qui peut-être se sont joints à vous plus naturellement, comme celui de Wilkins Mathieu. Moi, j'ai en tête un parcours un peu plus complexe, celui de Osleis Iglesias, le Cubain qui s'est ramassé en Allemagne, qui finit par se ramasser avec vous. Ça, un cas comme ça, comment ça se rend à votre oreille, puis comment vous réussissez à le convaincre de venir se battre ici avec vous?
Ben, ça a été facile de le convaincre, mais lui, en fait, Cuba pouvait pas avoir de boxeurs professionnels parce que c'est un pays communiste. Ça change tranquillement, mais jusqu'à vraiment pas longtemps, c'était impossible pour eux de faire le saut chez les professionnels. Fait que lui, il était sur l'équipe nationale. Ils ont fait un voyage en Allemagne pour une compétition. Puis il a décidé de rester là-bas. Il s'est sauvé de son pays. Il est resté à Cuba. Il n'est pas reparti avec l'équipe. Mm-hmm. Il a demandé l'asile. Puis ça a fonctionné. Le gars était tellement talentueux. Il a signé avec un promoteur de là-bas. Qui a été capable de le monter assez rapidement. Mais le promoteur, qui était aussi son gérant, manquait un peu d'expérience, il manquait un peu de ressources. Puis c'est là que je te dis que le temps fait bien les choses. Là, à force de bâtir notre nom, à force d'être reconnu à l'international, ben son gérant, et c'est lui qui nous l'a, son gérant slash promoteur, là, qui nous l'a apporté. Il est venu nous voir, puis il nous l'a carrément offert. Il a dit, regardez, ce gars-là, je pense qu'il peut se rendre très loin. J'ai pas nécessairement les ressources pour moi être capable de l'amener jusqu'au bout. Okay. J'aimerais ça continuer mon partenariat avec lui en tant que gérant, mais je suis pas capable de faire les événements. Pour l'amener en championnat du monde, il faut le faire boxer sur une base régulière. Il faut être capable de convaincre les adversaires de venir l'affronter. Il était pas capable de faire ça. Donc, il nous l'a offert. Nous, on a tout de suite embarqué dans le projet. On a vu qu'il y avait un bon potentiel, mais pour être parfaitement honnête, ça, c'est un peu un coup de chance. On savait qu'il était bon. On l'avait vu boxer chez les pros. On l'avait vu sur sa carrière amateur. Mais on pensait pas qu'elle allait être aussi bon.
Certes, l'aspect sportif, là, c'est super important. Est-ce qu'il est bon dans le ring pour pas que le gars se fasse arracher la tête? Ça, c'est clair. Mais est-ce que vous cherchez l'aspect personnage, où ça donne de même, puis tant mieux. Quand je dis personnage, là, je parle à des gens qui, juste par le fait qu'ils s'ouvrent la gueule, ils attirent du monde, genre des Conor McGregor de ce monde. Là, je prends des cas extrêmes, là, ou bien des Tyson Fury pour rester dans la boxe.
Ouais, ouais. Un peu, c'est certain, mais il faut garder en tête que la boxe, c'est un sport spectacle. Fait que t'as beau être super bon, si en plus t'as une personnalité extravagante, là, puis que les gens trippent sur toi, c'est encore mieux. Mais il faut aussi que ton style de boxe soit spectaculaire. Il faut que, tu sais, un gars qui est super talentueux, une technique incroyable, mais qui fait pas mal à personne, que ses combats se rendent à la limite continuellement, qui fait pas un bon show, qui lance pas assez de coups de poing, ça vend pas. Mmh. Fait que, oui, c'est important parce que c'est un sport, mais c'est une business aussi. En fait, tu sais, si tu investis énormément d'argent, mais personne ne veut voir ton gars, il a beau être champion du monde, c'est pas très lucratif.
Les coachez-vous sur l'aspect communication, sur hey, dis ça, ça va mettre le feu pour mousser telle affaire, ou vous les laissez libre aller?
On les coach un peu, mais c'est touché non plus, parce que tu sais, c'est le côté boxe. Ben, ça aussi, c'est touché, mais on peut avoir quand même une certaine influence, c'est de leur expliquer à quel point c'est important de donner un bon show, mais tu peux pas non plus. La boxe, c'est un sport tellement tough, autant au niveau boxe qu'au niveau mental. Si on commence à changer la personne, il faut que ça vienne d'eux-mêmes. Là, c'est sûr que oui, tu peux faire un peu d'ajustement, puis tu peux leur donner des conseils, mais tu peux pas non plus forcer un gars à être baveux. Il faut que ça vienne de lui.
Moi, quelque chose qui m'a marqué, là, parce qu'on a fait une puis une autre, des entrevues avec des gens de votre écurie, puis ce qui m'a fessé, puis je l'ai dit à Louis à toutes les fois, là, c'est à quel point on a autant Wilkins, Christian, Layla, name it, là, n'importe à qui on parle, c'est des gens avec une tête sur les épaules, qui s'expriment bien. Tu sais, on pourrait penser à longue de faire de la boxe, manger des coups de poing sur la gueule, on pourrait être un peu affecté ou un peu séquelle. Pas du tout. J'ai toujours trouvé que votre écurie, c'est tout du monde super. Est-ce que c'est déjà arrivé que vous êtes tombé sur quelqu'un qui vient d'un milieu trop fucked up, que le gars, il n'est pas gérable?
Pas gérable, là, j'ai pas d'histoire en tête vraiment, mais tu sais, des histoires tristes de gars qui ont mangé trop de coups de poing, ça, il y en a quand même. C'est pas juste dans les films, là. Tu sais, il y a des histoires comme ça qui sont arrivées au Québec. Je n'aimerais pas de nom, mais tu sais, j'en ai côtoyé quand même une bonne gang, là, que c'est pénible, là.
OK. Hey, tu étais en fin de semaine en Égypte, quand même très haute. Avant de parler de ce qui va attendre Christian Mbili, parle-moi un peu de la soirée que tu as vécue tout court. C'est quand même un combat, mais parle-moi aussi au-delà du combat en commençant, là, l'événement.
Ouais, c'est fou, là, honnêtement. C'est quand même mon parler. Il faut que j'aille en Égypte pour faire le face-à-face, la conférence de presse, le premier face-up avec Canelo. Évidemment, tout ce qui entoure ce combat-là, c'est tellement gros, c'est tellement grand. J'étais content d'y aller. Mais je me disais, j'espère que je vais avoir un petit peu de temps pour aller voir les pyramides. Là. Je n'étais pas sûr dans ce genre de voyage-là. On est là 3 jours, puis on est booké. On a tellement de rencontres avec les médias, puis il y a plein de... L'horaire, il est vraiment plein. Fait que je me demandais, j'espère que je vais avoir la chance de voir les pyramides.
C'est-tu ta première fois en Égypte?
Oui, c'était ma première fois en Égypte.
OK.
T'es sérieux? Tu savais pas? Non, je savais pas. Le combat, la conférence, toutes les Turquie, le roi, le prince de l'Arabie Saoudite qui faisait l'événement, il a loué les pyramides. Je sais pas si c'est comment on peut dire loué, mais il a pris les pyramides, il a bloqué ça. Habituellement, les gens peuvent aller visiter. Là, c'était fermé, c'était pas ouvert au public, puis c'était vraiment juste à la promotion de l'événement pendant 2-3 jours. Ils ont tout installé ça. Il y avait des camions, des jeux de lumière. C'était devant les pyramides, devant le Sphinx, comme tu as dit. Là, on n'a plus vraiment genre, les voir de très, très, très près. Puis c'était, tout l'événement, c'était surréaliste. Là. Tu regardes le combat de boxe, tu tournes à droite, tu vois les lumières, les pyramides éclairées en rouge, ça change de couleur, il y a des jeux de lumière dessus. C'était assez incroyable. C'est genre de... Bucket list, là, tu vas t'en rappeler. Je m'en rappelle assez longtemps, toujours.
Le combat principal opposant Alexander Usyk à Rico, comment t'as trouvé ça?
Ben, j'ai entendu un de vous deux, je sais pas si c'est lequel des deux qui a dit.
C'est moi, mais. Tu sais, t'as été là, je sais pas si t'as vu le même combat que le monde entier.
100%,
a vu.
Non, ben oui. Non,
c'est un des pires vols de l'histoire de la boxe, là.
Puis honnêtement, ben, je sais que c'est peut-être exagéré parce que j'ai lu ça beaucoup, mais tout le monde remet en doute est-ce que Usyk est si bon que ça, là? Est-ce qu'il peut vraiment faire partie des plus grands de tous les temps s'il y a eu de la mise pour les gens qui n'ont pas vu le combat, il affrontait un gars qui était 1-0 dans le monde de la boxe.
C'est un gars de kickboxing.
Fait, clairement, il y a quand même une belle technique, mais c'est basic quand même, là, il était vraiment pas incroyable. Usyk a eu de la difficulté sur la carte des juges. Il y avait deux juges qui me donnaient ça égal après 10 rounds. Un juge qui donnait ça en retard, d'ailleurs, c'est un juge du Québec, Pasquale Procopio. C'est le seul qui avait ça en faveur de Rico. Les deux autres avaient un combat nul. Puis Usyk était capable de s'en débarrasser, mais s'est débarrassé. Le monde a chialé un peu, c'était un arrêt de l'arbitre un peu trop précoce, puis c'était aussi, là, il y a un protêt, parce que semblerait que c'était après la leçon de la cloche. Longue histoire courte, c'était un combat que on se demandait, là, c'est un combat qui va durer 3 rounds, 4 rounds, tout le monde tout le monde savait que le combat allait durer moins que 5 rounds, ou tout le monde pensait que le combat allait durer moins que 5 rounds, puis qu'il sait qu'elle allait s'en débarrasser facilement. On comprenait même pas pour comment ça se fait qu'il pouvait être payé aussi cher pour un combat contre un gars par rapport. Mais finalement, il y a eu bien des problèmes, puis ça nous a laissé un peu sur notre appétit, I guess.
Ça, des controverses de même, là, où tout le monde voit à peu près la même affaire, as-tu l'impression que des fois, ça peut ternir l'image de la boxe? Parce que j'ai vu beaucoup, beaucoup de monde dire que c'est ça, que peu importe, même, tu sais, on l'a vu avec les cartes des juges, que même si l'arbitre avait pas arrêté le combat, l'outsider aurait perdu quand même. Est-ce que ça affecte négativement l'image?
Ben, un peu, mais je pense. La réalité, là, c'est que je pense pas que le score était si mauvais que ça. C'était un combat. Je pense que avec le combat était très serré. Peut-être un léger avantage à Rico, mais pas un grand avantage. Mais là, il venait de perdre le round 18 parce qu'il était allé au tapis. Puis le dernier round aurait sûrement été un calvaire. Fait que je pense pas qu'on a à s'inquiéter au niveau de la victoire. Tu sais, je pense que Usyk aurait gagné ce combat-là sur la carte des juges. C'est juste que c'est plus le fait qu'on s'attendait à un combat qui était même pas proche. Là, on s'attendait à une rap de la part de Usyk. On pensait qu'il allait s'amuser. Il y a eu ça a été un combat tellement compliqué, tellement difficile. C'est plus ça qui nous, tu sais, qui laisse. Mais je pense que tout le monde qui a vu le combat sont quand même d'accord que c'était un combat serré. C'est juste que c'est pas supposé être un combat serré contre un gars comme ça. Là.
Mm-hmm. Hey, je reviens sur les promoteurs qui ont loué Pyramide, qui ont mis la totale. Là, le combat qui va poser Christian Mbili à Canelo, ça va se passer à Riyad également. Est-ce qu'il y a un mot d'ordre dans le mot de la boxe, dans l'industrie, que la grosse pièce est dans le monde arabe, en Arabie Saoudite, dans ces lieux-là?
Ben oui, c'est sûr que tout le monde est parfaitement conscient. Les bourses, ça fait quelques fois, là, avec Aslambek Makhmoudov, on est allé à quelques reprises. Oui. Simon Keane aussi est allé. Faut juste faire attention. Il faut expliquer à nos athlètes que c'est sûr qu'on va tout faire pour les amener, pour leur permettre d'avoir un combat là-bas. Mais c'est pas des chiffres réalistes. Dans le sens que on peut pas nous. Ils ont donné 100 millions de dollars à Usyk. Il y avait 3000 personnes dans les estrades. Peut-être 4. Là. C'était sold out, mais c'était un petit stade extérieur qui avait été fait pour l'événement. Là. C'était très beau, évidemment. Là. Ils sont allés avec. Ils ont les moyens pour mettre ça grandiose, mais c'était minuscule. Là. Il n'y avait pas de revenus vraiment avec la billetterie. C'était sur DAZN. DAZN a certainement payé quelques millions, mais comment ils ont pu générer ce genre... C'est des pertes qui acceptent de perdre pour bâtir quelque chose. Je pense qu'ils veulent prendre... C'est vraiment s'imposer au niveau... dans le monde de la boxe, mais ils veulent aussi faire connaître... en Égypte, c'est différent, mais les combats qui sont à Riyad, en Arabie Saoudite, c'est vraiment pour faire rayonner le pays. Ils ont une idée à l'arrière de tout ça. Je ne sais pas exactement c'est quoi, mais clairement, c'est un plan d'investissement qu'on n'est pas capable de combattre. Là. Ils ont tellement d'argent qui provient du pétrole qu'ils peuvent se permettre un plan qui va prendre quelques années, puis ils vont pouvoir mettre des centaines de millions de dollars là-dedans, mais réalistiquement, on peut pas, personne sur la Terre à part eux, faire des événements comme ça.
Ben justement, comment on négocie puis on réussit à vendre à ces gens-là que Christian Mbili, c'est le gars pour battre Canelo? Parce que je comprends que dans le ring, Christian a parlé par lui-même. Ça fait longtemps que je le suis, ça fait longtemps que je le vois aller. Et il y a de cela 4-5 ans, je voyais Christian se battre. Puis écoute, je savais que ça s'en allait vers ça. Puis depuis longtemps que je dis Canelo, c'est l'objectif final, puis que ça allait arriver. Mais pour que ça arrive, pour vrai, combien de boxeurs ont dit « Oui, un jour, je vais l'avoir Canelo », puis ils n'auront jamais la chance de même pas passer proche? Comment vous avez réussi à twister ça pour réussir à l'amener là?
Mais deux choses. Premièrement, tout le mérite revient à Christian. C'est lui qui a forcé la main. Je pense que le Turki Aleshi, le roi de la royauté là-bas qui gère tout ça, s'il n'avait pas voulu Christian, il n'y avait rien à faire. On n'aurait pas pu le convaincre de faire boxer Christian. Là. Je pense qu'il a vraiment adoré le combat de Christian Mbili contre Lester Martinez en demi-finale de Crawford contre Canelo. Mbili avait été un des combats de l'année dans cette performance-là. Donc, tu sais, je pense que il a vendu une grosse partie du travail a été faite dans le ring par les performances de Christian. Puis après ça, il faut donner aussi énormément de crédit à Camille Stéphane qui a créé une belle relation avec Turki Aleshi puis qui a été capable de vraiment faire valoir parce que il y avait d'autres gars dans la course, évidemment. Là. On n'était pas les seuls à vouloir affronter Canelo pour son retour. Mais ça prenait deux ingrédients importants, puis on les avait. C'était un excellent négociateur en Camille, puis ça prenait aussi le cheval. Si on n'avait pas eu le gars pour on n'avait pas le bon joueur, on n'avait pas la bonne pièce maîtresse. Il n'y avait rien à faire.
Comment ça fonctionne? Est-ce que dans l'industrie, il y a un mot qui se passe comme de quoi Canelo cherche quelqu'un ou bien vous shootez au net en espérant qu'à un moment donné, ça rentre?
C'est eux qui t'approchent. Canelo décide de faire son retour le 12 septembre. Fait que là, il y a Il y a plusieurs éclaireurs qui envoient qui tentent le terrain avec plein d'athlètes. Fait que là, mettons, il y en a certains qui sont blessés, il y en a certains qui ont pas d'intérêt. Avec Canelo, c'est rare, là, parce que le chèque vient, là, mais je sais pas comment c'est le processus habituel, là. C'est quand un champion du monde veut boxer, il décide de boxer. Il y a plein d'athlètes qui reçoivent des offres. Ben, pas des offres concrètes, mais ils se font offrir la possibilité de combattre. Puis après ça, il y en a certains qui acceptent là, une espèce de round, un premier round, puis ensuite le deuxième round, puis ensuite, éventuellement, c'est un long processus. Après ça, il y a tout le côté monétaire aussi qui embarque. T'sais, au début, les gars disent oui, ils sont intéressés, mais après ça dépend toujours de c'est quoi la bourse. Mm-hmm. C'est quoi les conditions, ça va être où, il y a plein d'éléments là, ça, parce que c'est vraiment une question de négociation.
Comment est Christian actuellement, son état d'esprit? C'est-tu le même Christian assez pauvre? Ben, nous autres, on le connaît juste par ses présences médiatiques, mais j'ai toujours trouvé que c'était un gars qui me semblait très posé. Est-ce qu'il est toujours encore aussi posé, ou il y a le mort, la rage aux dents? Comment est-ce qu'il est?
Non, en ce moment, il était calme. À toutes les fois que les gens demandaient c'est quoi ta stratégie, comment tu penses, là, pour l'instant, je suis en vacances. On va commencer ça à la fin du mois de mai. Mon équipe et moi, on va s'asseoir, on va regarder les combats, on va créer une stratégie. Mais pour l'instant, je suis bien relax. Puis c'était vraiment ça. Là. Il était pas, on s'entend, vacances de Christian, c'est un gars qui boit pas d'alcool, qui s'entraîne tout le temps malgré tout. Il allait faire son jogging le matin. C'est un gars qui est très sérieux en tout temps, mais il était pas en mode préparation de combat, disons.
OK. Avez-vous croisé Canelo en fin de semaine?
Oui, il était là, il était sur place, au face-à-face. Ils ont une espèce de table noire, ils s'assoient, puis ils s'insultent un peu les deux. Là, ils disent leur vérité. Ça, il y a eu ça. Après ça, il y a eu le face-à-face aux pyramides.
Quel vibe il a en personne, Canelo?
Ben, c'est dur à dire. Il est un peu superstar. Là, j'imagine que c'est normal, mais tu sais... Je le trouvais un peu hautain. Là. Il est correct. Là. Il est pas. Il y a une game à jouer, évidemment, mais il est pas venu nous parler au combat de boxe. On l'a croisé. Il ne nous a pas salué. Il nous a pas. Ça fait partie de la game, j'imagine, mais il était pas intéressé de se faire des amis, disons.
Ah, ben il va peut-être être moins hautain, mais qu'un genou touche le sol le 12 septembre prochain.
Exactement.
Hey, Antonin, un gros merci de nous avoir jasé. Ce fut très, très, très intéressant, parce que ça fait une couple de fois qu'on parle avec des athlètes, mais les coulisses derrière, là, la préparation, puis bâtir une écurie, ça nous fascinait. Un gros merci d'avoir accepté notre invitation.
Ben, ça me fait très plaisir, puis si vous avez d'autres questions éventuellement, faites-moi le signe, ça me fait plaisir de reprendre ça anytime.
Assurément, c'est clair qu'on se reprend. Merci, Antonin.
Merci beaucoup.
Bye-bye, bonne soirée. C'était Antonin Descaries, qui est directeur général de Eye of the Tiger Management et qui a également boxé. Là je t'ai fait de mémoire, mais je pense 32-2, ça affiche quelque chose de même. Là.
Ça peut,
ça. Fascinant, là, vraiment, le gars.
38-6.
Quand même solide, certain.
Très solide.
Et je trouve ça cool, tu sais, de pouvoir baigner, même que, comme il nous l'a dit, que tu sais, sa transition vers le management, tu sois fait comme de façon naturelle, qu'il n'y a pas eu de déchirure, comme « Ah, ma carrière est finie, puis là, bon, ben, fuck it, je vais aller faire du Excel. » Tu sais, que ça soit venu organiquement, c'est cool, c'est vraiment cool, ça. Ça montre aussi, je pense, la qualité de cette organisation-là, qui est Eye of the Tiger Management.
Chaque fois, c'est le même constat, c'est bien organisé, c'est très, très hot.
Vraiment, c'est cool que ce soit d'ici, cette affaire-là.
Mais ouais, son score professionnel, là, ouais, c'est peut-être... parce que j'ai le box rec, là, mais je pense que ça compte d'autres choses. Là. Fait que t'étais peut-être dessus avec ton 30-quelque-2.
Ah, écoute, j'ai vu passer un 32-2, quelque chose du genre, mais c'est peut-être pas à jour. J'avais jamais fait un lien, puis ça tombe sous le sens. Là. Man, Cuba, pays de cul, ils peuvent pas être pro.
Ouais, en boxe pro, c'est 32-2, oui.
32-2. À Cuba, pays de cul? Ils peuvent pas virer pro parce que c'est des commis.
Ben, ils peuvent pas sortir.
J'ai jamais fait un lien.
La boxe pro, c'est le capitalisme à son meilleur.
C'est
même.
Ça. Ils peuvent pas sortir, mais ils peuvent pas avoir de sponsor. Ils peuvent pas avoir de revenus.
Ils peuvent pas rien faire.
On comprend-tu de se pousser? Mais c'est comme le doute des capitales, tu te souviens?
Oui.
Je me souviens plus de son nom.
Ruben Castro?
Ah, t'as sûrement... Écoute,
Castro,
hein? 50% des chances que ce soit ça.
Il me semble, c'est lui. Là.
Le gars qui vient avec les capitaines, c'est oui, c'est passé l'été. Oui, ouais, la bisboule.
Il va y revenir.
Il va y revenir, c'était la promesse. Yeah. Finalement, cligne des yeux, boum, bye bye.
Hey, zoom, zoom.
Zoom, zoom. Mais on ferait pareil.
Je sais.
On ferait pareil.
100%.
On fait une courte pause. Le Spacecast est avec vous jusqu'à 22h.
Le Spacecast.
Avec JF Blais et Louis Gauvin.
Radio X.